Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem, des cahiers du catch, et je suis accompagné aujourd'hui de l'habituel Giscal.
Salut Irem, salut Giscal, tout le monde.
Et de l'inhabituel Raphaël. Salut Raphaël.
I'm here.
Salut. Alors, SmackDown cette semaine avait lieu le 7 février 2017 à Seattle, dans l'état de Washington. Au menu, Daniel Bryan reçoit une ovation. Le baron pin AJ Styles. Natalia veut se taper le mec de Nikki Bella. Aiden English ne se rase pas les aisselles. Alors que c'est sale. Première, on a eu la première double signature de contrat de SmackDown. Et John Cena a oublié qui était Randy Orton et vice-versa. Alors, comme je vous l'ai dit, Daniel Bryan, le héros local, puisqu'il s'avance sur le ring, le GM s'avance sur le ring sur une ovation, une marée de yes chants totalement démesurée, hein, de la foule qui applaudit donc le homeboy. Alors, Daniel Bryan, on fait un peu un speech, comme quoi il est reconnaissant. Vous vous souvenez, hein, ce discours qu'il avait eu pour annoncer sa retraite, où il disait qu'il était reconnaissant, grateful, voilà, pour le public. Il y a trouvé l'amour à la WWE. Il a tout gagné et voilà. Et en plus, il a une énorme nouvelle, puisqu'il est reconnaissant de pouvoir venir ici en qualité de GM, hein, du meilleur show de la WWE. Et il est aussi reconnaissant, comme l'a teasé Raphaël en vidéo, pour ceux qui nous suivent en vidéo, de pouvoir dire que très bientôt, et oui, il sera papa. Eh ouais.
Eh oui.
Donc à lui le bonheur de changer les couches à 3h du matin. Je pense qu'on aura un GM avec de grosses cernes d'ici un an.
C'est très possible, ouais. Ça va être dur. Hein.
Si, il est toujours GM d'ailleurs, parce que quid d'un congé de paternité.
Ça serait logique, je pense. Mais
à Stamford.
Bon,
oui. Ah, attends, je viens d'y penser là. Qui pourrait remplacer
Daniel Bryan? Pas laisser Brie.
Oh, vous avez une petite idée là, vite fait, qui pourrait remplacer Daniel Bryan?
Je suis sûr que Shane serait tout à fait ok pour être un peu plus à la télé, hein, mon pauvre IRM.
Moi, je l'avais déjà. Vas-y.
Non, vas-y.
Rafa.
Ouais, moi, je l'avais déjà pressenti. Je sais plus dans laquelle de nos exercices, je voyais bien Mick Foley passer à SmackDown. Rejeté comme il est en ce moment un peu par Stéphanie, et Stéphanie qui prendrait un vrai GM Hill pour une association Hill, mais bon, on verra si c'est du...
Pourquoi pas.
Affaire à suivre, en tout cas, toutes nos félicitations aux futurs parents.
Mm-hmm. Oui.
Alors, évidemment, qui dit Daniel Bryan dit Le Miz. Eh oui, Le Miz qui vient donc interrompre ce moment de communion intense avec le public. L'ancien champion intercontinental, donc, qui vient conseiller à Daniel Bryan de rester à la maison à jouer les papapoules, vu qu'il ne peut plus catcher. Il aime bien le rappeler, ça, Daniel Bryan. Et qu'il n'a donc plus rien à faire ici. Daniel Bryan, d'ailleurs, qui lui répond que ne pas pouvoir catcher n'a jamais empêché Le Miz d'être sur un ring.
C'était le burn de la soirée.
Le gros burn, ça fait plaisir après l'enterrement qu'avait fait Le Miz au pauvre baron la semaine dernière. Voilà, là, il a trouvé un adversaire à sa taille. La foule, évidemment, est d'accord, hein, puisqu'elle ne laisse plus Le Miz en placer une. Hein, la foule est vraiment en délire. Je parlais du baron, justement, le baron. Le baron arrive avec sa musique de moto. Il s'en prend au Miz, lui reproche de parler trop, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'instant, et il veut lui rabattre le clapet. D'ailleurs, le Miz, hein, qui tente les négociations par rapport à une entente éventuelle lors de l'Elimination Chamber, hein, puisque tout ce petit monde va se retrouver dans la chambre d'élimination, mais des négociations qui ne se concluent à rien, puisqu'il n'obtient que les provocations du loup solitaire et de Daniel Bryan. On enchaîne, évidemment, puisque on a tout de suite compris quel était l'objectif de cette séquence. C'est évidemment de nous présenter tout au parti des intervenants, des participants de la chambre d'élimination. Donc c'est au tour de Dean Ambrose, le champion intercontinental, pardon. Je vais dire l'ancien, mais voilà, il a un peu le on pourrait lui reprocher un peu d'avoir le syndrome Roman Reigns.
Ouais, hein, puisque, on aurait tendance à l'oublier, oui.
Ça, c'est... Ouais. On a des rares choses à dire, hein, sur les membres du Shield, ce qu'ils font une fois qu'ils ont la ceinture, ce qu'ils en font, en tout cas les ceintures secondaires. Dean Ambrose donc s'approche, hein, il lâche à son tour quelques piques, notamment sur la fameuse musique du Baron, la musique d'entrée. AJ Styles débarque à son tour. Il rappelle qu'il a quelques points en commun avec les autres. Hein. Oui, moi comme toi, j'ai été champion, pardon. Oui, moi comme toi, j'avais les dents longues, etc., etc. Mais qu'il a qu'une idée en tête, c'est récupérer son titre. Il est focus, hein, AJ Styles. Il ne pense qu'à une chose, c'est récupérer son titre. Et comme tout le monde a visiblement envie d'en découdre, eh bien, que fait Daniel Bryan? Que fait un GM dans ces cas-là? Que t'as quatre gars sur le ring qui veulent en
Tag team
découdre.
match player.
Il y a Elimination Chamber qui arrive. Y a, les heel
Mieux que
face
ça.
sont pas forcément répartis comme il faut. Et ben non, ce sera un Fatal 4-Way. Eh oui, un bon vieux
Ah là
Fatal
là.
4-Way. Et ce sera right now, évidemment. Alors, messieurs, je vous fais le petit résumé du match et on parlera de tout ça dans la foulée. Donc, un match qui démarre à 100 à l'heure, juste après avoir une énième tentative du Miz de négocier, on va dire, une association avec le Baron. Mais le Baron refuse. Hein. Le loup solitaire roule tout seul. Il place notamment, un peu plus tard dans le match, une énorme Tower of Doom hein, sur Miz et Styles. Voilà, faire preuve un peu de sa force. Le Miz qui continue hein, de mimer hein, tout le moveset de Daniel Bryan. Alors là, en plus, on est à Seattle. Donc, bah, ça marche du tonnerre. On a les kicks, les yes chants. Les kicks, ils étaient un peu mollo.
Ouais, pas terrible.
Ouais, très très mou les
Sur Dean
kicks, hein, ouais.
Ambrose, c'était Dean Ambrose et AJ Styles.
Ouais, les
Ouais.
deux, ils étaient en train de l'attendre.
Ah ouais, vas-y, frappe plus fort, s'il te
Frappe,
plaît.
oui, c'est ça. J'ai, voilà, bon. Il fallait accepter qu'effectivement, là, c'était pas très bien exécuté. On a le désormais inévitable running knee hein, du Miz. Ensuite, on a eu un enchaînement infini de roll-ups, de petits paquets là, entre AJ Styles, The Miz et Daniel Ambrose. Et Dean Ambrose. C'était plutôt bien exécuté parce que tu dois avoir la tête qui tourne après tous
Ouais,
ces
oui, je
roll-ups
pense, oui.
La séquence Colissimo.
À toi, à moi, à toi, à moi. À l'extérieur, par contre, c'est Dean Ambrose hein, qui contrôle les débats, hein, puisque tour à tour, le baron finit dans la table, ou sur la table, et Gestalt, lui, finit dans les barricades, et les couilles du Miz finissent sur les barricades.
Sur les barricades, oui.
Et Gestalt, hein, le technicien de la bande, hein, place à un moment donné son moonsault reverse DDT, hein, en sautant comme ça depuis la troisième corde sur Dean Ambrose pour le compte de deux. Et le match se conclut sur l'inévitable End of Days du Baron hein,
Et
sur
oui.
AJ Styles. AJ Styles, et oui, qui à ce moment-là était préoccupé par le Miz, qui avait été sauvé, extirpé du ring in extremis par la belle Maryse. 1, 2, 3. Et oui, c'est le Baron qui remporte en faisant le tomber sur l'ancien champion du monde, AJ Styles. Quelle grosse entrée en matière pour ce SmackDown qui est, je vous le rappelle, un Go Home Show. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de cette grosse séquence d'intro?
C'était un sur le match, c'était un très 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 bon match. C'était vraiment hyper bien. J'ai kiffé toutes les séquences et j'ai beaucoup aimé les performances d'AJ Styles. Enfin, tout le monde était dans la bonne place. Et quand Daniel Bryan a annoncé la tenue du match, j'ai eu un petit. Je trouvais qu'il manquait un truc. Je m'attendais à ce qu'il mette un enjeu quand même. Par exemple, un enjeu facile, ça aurait été le vainqueur et le dernier à avoir. Ça c'est. Et puis en fait, l'intensité du match, la violence, le rythme des coups m'a fait un peu oublier cette absence d'enjeu. Et je trouve qu'ils ont bien choisi le vainqueur. Alors ça aurait pu être n'importe lequel en fait, mais c'était ça qui était bien. C'était dans cette stipulation à quatre, n'importe qui pouvait gagner sans que ça affecte l'aura des autres. Et c'est le cas. AJ Styles prend le pin. Bon bah. Pas grave, ça veut pas dire qu'AJ Styles va être mauvais ou perdre ce dimanche. Donc c'était une très belle entrée en matière, je trouve.
Giscal.
Ouais, pareil.
Est-ce que toi, le manque d'enjeu.
Ouais, bah, c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, mais c'est plutôt une bonne remarque. Ça aurait été intéressant comme
Merci.
petit enjeu. Ça aurait été plutôt même très sympa ça comme enjeu de voilà de jouer la dernière place dans l'Elimination Chamber. Mais bon, on l'a pas eu comme tu dis. L'intensité a vite effacé ça. Et puis c'est vrai que la petite promo d'avant avait bien fait monter la sauce pour que on accepte le fait que voilà ils aient tous envie de se foutre sur la gueule en mode un petit peu grande répétition générale parce que ils ont tous envie de montrer qu'ils sont les meilleurs et arriver avec un max de momentum dans la chambre de l'élimination. Donc du coup moi c'est bien passé pour moi, super match, beaucoup de spots très sympas, très dynamiques, pas de temps mort. Enfin c'était vraiment très très sympa à suivre, un modèle du genre hein, dans les Fatal Four Way de Weekly, excellent choix de vainqueur, enfin vraiment le baron c'est celui qui en avait le plus besoin, et j'ai envie de dire excellent choix de vainqueur et excellent choix de perdant entre guillemets hein, mais enfin le fait qu'il fasse le tomber sur AJ Styles, c'est vraiment enfin c'est je trouve que c'est la meilleure combinaison de tombées qu'il pouvait faire sur ce match, c'est vraiment nickel pour donner une super image à Baron Corbin, puisque bon bah voilà, Dean Ambrose champion intercontinental, AJ Styles le top du top de SmackDown depuis des mois, le Miz, bon ça reste un mec quand même toujours très over et qui s'en sort, bon bah voilà, d'ailleurs il s'en est sorti en filoutant encore une fois, donc vraiment le Baron Corbin qui gagne, c'était super important. Puis petit commentaire sur vite fait sur la promo du début, moi j'ai trouvé ça très cool, j'ai toujours un peu ému de ces promos de Daniel Bryan. Moi, je trouve vraiment qu'il a un côté.
Ah bah tu avais mis, je me souviens, tu avais mis son speech de l'annonce de sa retraite
dans
un
meilleur
de tes meilleurs
moment.
moments.
Ouais, et c'est, il a vraiment un côté quand il parle de lui comme ça, qui fait tellement authentique que t'as presque envie d'aller sur le ring et de le prendre dans ses bras, de dire c'est bon ça. C'est... Non, il est vraiment juste sympa naturellement ce mec-là. Donc du coup c'était cool le petit speech, le fait que ce soit chez lui, l'ovation était vraiment top. Le public de manière générale a été génial hein, ce soir-là. Donc ils ont vraiment été à la hauteur de l'événement. Donc c'était cool, c'était sympa cette petite intro pour un go home show. On a été gâtés.
Oui.
Alors, messieurs, on va passer à une séquence. Alors, j'hésitais un petit peu entre faire un Jobber World, une section sans commentaires, etc. Donc, je me suis arrêté à cette stipulation qui est un seul commentaire. Donc, j'ai narré quelques séquences qui sont
Okay.
déroulées assez anecdotiques, on va dire, dans ce SmackDown. Et à la fin, vous aurez droit de faire un commentaire seulement sur une de ces séquences. Celle que vous estimerez digne de votre intérêt. Donc on commence. C'est une sorte de Jobber World, toi, un peu amélioré. Mieux que celui qui
2010...
a Ketchup Pro.
2017.
2017. Alors, on a eu donc une interview séparée mais simultanée entre Nikki et Natalia, qui était donc interviewée par Tom Phillips. Natalia qui menace Nikki de lui piquer son cum, alors qu'elle en a déjà un, hein, qui a plus de cervicale, hein, mais le pauvre Tyson Kidd. Ensuite, ce qu'on pouvait appeler d'ailleurs la boobs interview, hein, parce que.
Ah là,
ils ont mis en avant leurs arguments,
ouais,
on va dire.
Les cadrages étaient ouais. faits, en tout cas pour. Hein.
Ensuite, on a eu Apollo fucking Crews, comme l'a dit si bien Giscard, qui a battu Dolph Losing Ziggler sur un roll-up. Du coup, Dolph, eh ben, il n'est pas content, il lui claque les fesses avec une chaise. Kalisto, en gros mazo, vient réclamer également sa part. Hein, il se fait fouetter à son tour. Le tout sous les vivas de la foule, hein, qui en redemande, ces gros pervers.
Ouais.
Il croise ensuite Daniel Bryan un peu plus tard backstage. Hop là, voilà, pardon. Il croise Daniel Bryan backstage qui book un handicap match à Elimination Chamber. Donc un 2 contre 1 qui est booké. Puis on a eu un match de la division tag team. Un 6 contre 6. Et oui, je vois Raphaël, là tu te dis, j'ai sûrement quelque chose à dire sur ce match. Voilà, donc c'est pour ça que je te donnerai un commentaire. Aiden English nous a montré ses aisselles poilues et c'est les Ascension qui ont fait le tomber. Alors, Giscal. un commentaire, tu choisis une séquence et tu me fais un commentaire sur tout ça. Pendant que j'essaie de régler les problèmes vidéo.
Moi je vais choisir les tag teams. Je vais choisir les tag teams parce qu'en fait j'avais compilé des petits fun facts sur ce match qui au demeurant était assez pourri, j'ai trouvé, parce que on reprend tous les défauts de la semaine dernière et en fait voilà, les tag teams en ce moment c'est on met tout dans un pot, on secoue, on voit ce qui sort, et donc la semaine dernière c'était Slater et Rhino qui sont sortis, et cette semaine c'était The Ascension qui sont sortis. Et alors The Ascension, complètement à ma surprise totale, parce que je m'attendais pas à les voir gagner, et tellement surprenant que du coup je suis allé faire mes petites recherches parce que je me dis mais attends, The Ascension qui gagne,
ah oui,
je me souviens pas de quand est-ce que c'est arrivé. Et ben figurez-vous que The Ascension n'avait pas gagné sur un tombé, parce qu'ils ont gagné mais parce qu'ils étaient en équipe avec les Usos en septembre dernier à SmackDown, mais ils ont jamais gagné vraiment sur un tombé un match depuis un an. Enfin, presque un an, puisque c'était le 8 février le 8 février dernier, donc à un jour près, on était à un an sans victoire sur tombée, et c'était à WWE Superstars contre Damien Sandow et Fandango, qui étaient déjà dans le mauvais coup. et donc ça faisait une série de presque 90 matchs sans victoire sur tombée pour Connor et Victor.
Quand même.
Donc bon, malgré le fait qu'ils aient gagné en septembre dernier, mais bon voilà, donc c'était quand même une sale série, sachant que, mais ça par contre je l'ai vu ailleurs, mais manifestement Victor avait eu, en tout cas en 2016, le plus faible taux de victoire à la WWE, puisque en à peu près 140 matchs, il avait deux victoires, ce qui faisait à peu près 1,4% de victoire. Quand je dis ça, c'est tout confondu, même en house show, hein, genre nulle part, le mec ne gagne nulle part, quoi. Donc c'était quand même assez incroyable. Et j'en avais, du coup, ça m'a poussé à aller chercher les petits chouchous d'IRM, puisque je me suis dit, mais attends, dans l'équipe des vainqueurs, il y a quand même les vaudevillains qui sont dans le coup.
Ouais.
Bon, alors, ils n'ont pas gagné.
Je sais pas si j'ai envie de savoir là.
Ils n'ont pas gagné de manière décisive, mais n'empêche que, mine de rien, cette victoire des vaudevillains, ça fait que tout confondu, même house show, partout les tournées en Europe, ça faisait 239 jours qu'ils n'avaient pas gagné, soit 80 matchs.
Ah ouais.
Et la dernière fois, c'était en juin à Raw, quand ils étaient associés au club, ils avaient battu le New Day et Soft, mais bon, c'était pas eux qui avaient fait le pin. Et si on veut remonter à leur dernière victoire en pinfall, c'était en mai dernier à SmackDown contre Bo Dallas et Curtis Axel.
Oh là
là, ça vous donne le niveau. Bo Dallas et Curtis Axel à l'époque des Social Outcasts. Donc ça vous donne le niveau d'adversaire qu'il faut pour que les vaudevillains remportent un match par eux-mêmes. Donc voilà, c'était la petite interlude qui mine de rien, je trouve, illustre un peu le marasme ambiant dans lequel on est dans les tag teams à SmackDown. C'est bon, bah là, on fait gagner des gars, on se demande d'où ça vient. Donc voilà, c'était mon commentaire. Sinon, j'ai rien
mais
à dire.
De toute façon, même eux étaient les premiers étonnés. Hein,
oui, ils ont gagné. Alors d'un seul coup, ils se disent, ah, putain, j'ai.
Victor, puisque c'est lui qui a fait le tombé de l'équipe, a fait le tombé. Il était rejoint par Connor. Ils en revenaient pas. Personne n'en revenait.
Incroyable.
Bon, Raphaël, alors voilà. Toi, quelle est la séquence que tu as choisie pour commenter du coup
Bah déjà, je suis très impressionné par Giscal. Bravo pour ce formidable travail d'analyse. Donc, on en conclut que Victor porte assez mal son prénom. Hein.
Exactement.
Et effectivement, bon, je rebondis juste un peu sur ce qu'il a dit. C'est un peu le bordel en tag team. Le seul truc que ça m'a appris, moi, c'est qu'a priori, Fandango et Tyler Breeze, ils étaient face maintenant. Mais enfin.
Oui.
C'est un peu le bordel.
Pour faire le nombre, ouais.
Oui, peut-être. Bref, donc, puisque Giscal a tout dit sur la partie tag team, moi, je vais parler de Dolph Ziggler. Parce que je reste quand même assez circonspect de son traitement depuis son heel turn. Enfin, en général, quand les mecs turnent, c'est qu'il y a un truc derrière, quoi. Il y a un plan, il y a un push, il y a un truc. Et là, ça commence à faire, je sais pas, ça fait bien peut-être un mois et demi qu'il est en train de. Alors, un coup, il tape Kalisto et c'est Apollo Crews qui vient à sa rescousse. Un coup, c'est l'inverse. Donc, l'handicap match est logique. Moi, j'ai l'impression qu'on attend et qu'il va y avoir pour lui, une sorte de, encore à WrestleMania, un ladder match pour le titre intercontinental où il sera foutu dedans. Avec probablement Apollo Crews et Kalisto aussi. Mais sinon, ouais, le mec a turné heel parce qu'il avait plus d'opportunités face à lui et il en a pas beaucoup plus, quoi.
Non.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'évolution d'une semaine à l'autre. Les choses changent mais restent les mêmes. On a toujours la même séquence avec les chaises à la fin.
Et la foule qui adore. Donc
la
c'est
foule
un
qui adore de plus en plus.
Oui, ça c'est vraiment... ça en dit long quand même sur le niveau de... Enfin, le niveau d'appréciation de Kalisto et Cruz qui passe quand même un peu inaperçu dans le roster de SmackDown, puisque finalement, on aime bien les voir se faire cogner. C'est pas bon signe pour eux quand même.
Mm-hmm. Ouais, niveau public, ça me fait penser, je reviens sur les tag teams, soulignons l'énorme pop de Rhino qui a été...
Ouais.
Ah oui, réclamé et acclamé.
Oh, wow. Ouais. En 2017, qui l'eût cru?
Ouais, j'avoue, là, on perd tous nos repères. Mais on y reviendra justement. On y reviendra justement lors de Main Event. C'est vieux souvenirs qui rejaillissent du passé. Voilà. Il n'y a pas que Rhino. Alors, voilà. Heureusement, dans la division féminine, il n'y a pas que des boobs interviews. Il y a aussi des first ever double contract signing. En l'occurrence, pour les deux matchs des filles qui auront lieu à l'Elimination Chamber, le premier étant évidemment entre Bliss et Naomi, Alexa Bliss et Naomi pour le titre de la division féminine, et Becky Lynch qui affrontera Mickie James dans un match sans stipulation, il me semble.
Pour rien.
Ouais, sans stipulation.
Donc voilà, les quatre se retrouvent donc sur le ring hein, pour la signature, cette double signature de contrat qui est hostée par ah mince, j'ai oublié
René
son nom,
Young.
René
Allez.
Young, Mickey James justement qui lui rabat rapidement le claquet à cette pseudo-journaliste. Alors René Young, c'est marrant parce que quand on lui demande de partir, elle part, elle s'en va, elle s'écrase, hein, René Young.
Oui.
Mais je pense que pour être en couple avec Dean Ambrose, il faut avoir une personnalité assez calme et tout, donc.
Ouais. Elle doit pas faire trop de vagues.
Sinon, ça fait des
Je le vois en train
étincelles.
de piquer ses crises et faire n'importe quoi à la maison, et elle qui reste dans son coin à lire un livre.
Voilà,
Non,
c'est
mais
ça.
c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est normal, c'est Dean. Donc cette division féminine qui est construite grâce à l'obsession hein, de Mickie James, elle nous le rappelle, et qu'elle est là pour récupérer un peu la reconnaissance qu'elle mérite en démontrant que c'est elle qui a créé vraiment cet élan de cette Woman Division, cette Woman Revolution, et qui du coup a également créé Becky Lynch. On est un peu dans le symptôme des qui a créé quoi entre Raw et SmackDown. Becky Lynch, justement, hein, qui lui réplique que contrairement à Mickie James, qui est partie, hein, qui a quitté la WWE quand ça commence à devenir chaud, etc. Donc, justement, parlant de cette révolution féminine, elle ne recule devant aucune difficulté. Bliss prend alors le micro, elle dit à Becky tu peux qu'elle passe son temps à chercher des excuses. Mais en attendant, c'est Alexa, hein, c'est Alexa Bliss qui a le titre. Hein, et c'est donc sa division, c'est la division d'Alexa Bliss. Et là, oh, elle se tourne vers Naomi et elle lui fait oh, mais merde, excuse-moi, je t'avais même pas vu, oh my god, j'ai pas vu que tu étais là. Mais bon, c'est ok, hein, pas de problème, de toute façon, voilà, je vais te battre dimanche, voilà, c'est fait.
Allez hop.
et Naomi qui prend le micro à son tour et qui lui rappelle qu'elle l'a battue déjà deux fois et qu'elle compte bien recommencer. Feel the glow, boom, gros kick dans la tronche, cat fight
Ah,
général et
superbe.
les heels qui détalent. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce première double signature de contrat, Raphaël?
Eh bien, c'était un exercice intéressant. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait eu la boobs interview. J'ai trouvé que Mickie James était quand même très, 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 très en forme moulée. Je sais pas si ça vous a marqué vous
En
aussi.
forme moulée.
Oui, elle avait un truc qui lui collait bien au corps. Hein. C'était elle, rappelons-nous, qui, je crois, hein, qui avait eu des implants, qui avait implanté.
Ouais.
En... Ouais, ben là, ils ont été remis en place. Hein. Ça, c'était.
Attends, qu'il y avait des implants quoi qui ont implosé pendant un match?
Mickie James avait eu des implants mammaires qui avaient
Ah ouais?
implosé ou explosé, je crois, pendant un match. Ou un souci du genre.
Boobs Buster quoi.
Boobuster.
Donc voilà, bref,
Waouh.
ça c'est la petite anecdote un peu de beauf,
Merci
mais en tout cas,
Raphaël.
ça nous
C'est
a.
pas le même
Ça
genre
nous...
d'anecdote que Giscard, hein.
Non, mais
Non.
ça nous a rappelé cette belle époque des divas.
Donc tout va mieux.
D'ailleurs, son discours se tient, hein. C'est vrai qu'elle fait partie des rares de cette époque un peu du marasme. Il y aurait pu avoir Beth Phoenix ou autre qui peuvent dire, ouais, mais attendez, vous la racontez avec vos histoires de femmes. Nous, on a été là avant et on envoyait déjà du lourd. Bon, c'est mitigé quand même, historiquement parlant, les matchs qu'il y avait à cette époque. Mais bon, c'est Mickie James quand même. Donc elle tient son statut et son angle d'attaque était plutôt intéressant. Moi, bon, là, j'ai trouvé que sur l'exercice, c'était les heels qui s'en sont le mieux sortis. Becky Lynch, moi, elle me plaît bien parce qu'elle a cette énergie, le straight fire en elle, mais son discours est un peu plus convenu. Naomi, je l'ai trouvé moins à l'aise, hein, c'est quand même. Et Alexa Bliss, par contre, ouais, ça m'a beaucoup fait rire, son côté. Ah merde, elle avait oublié Naomi, mais bon, on s'en fout, Naomi. C'est un détail. Et d'ailleurs, je pense que ça va être un détail. Je pense qu'Alexa Bliss va rester championne. Mais bon, c'était pas mal comme exercice.
Jusqu'alors, qu'est-ce que tu as
Nous lâchons
trouvé que les filles avaient
un petit promo
performé?
là. Bon, bah, moi j'ai adoré ce segment, j'ai
Ah.
trouvé ça trop bien, aussi bien par l'originalité que l'exécution. Déjà, je trouvais ça assez. Je pense que c'était pas juste en mode il faut caser les deux segments en un seul à SmackDown. Je pense que c'était vraiment une volonté de tenter quelque chose d'original. Et c'est encore une fois vers les filles qu'on se tourne pour faire ça. Donc je trouve ça très cool. D'ailleurs, de manière générale, j'aime bien le fait que cette histoire de Women's Revolution se penche de plus, enfin s'oriente maintenant de plus en plus vers SmackDown. C'est SmackDown qui se l'approprie beaucoup plus parce que Bah, mine de rien, si on regarde un peu dans le rétroviseur, je trouve que au-delà de bon bah oui, Arrow, il y a eu évidemment le Hell in a Cell qui est absolument historique. Je trouve que depuis le Brand Split, SmackDown représente bien finalement ce côté opportunité pour les femmes et mise en avant pas mal. Donc je trouve que c'est cool que ce soit SmackDown qui se l'approprie. Et puis bah ouais, moi je trouvais que le segment était top. J'ai trouvé que ça fusait dans tous les sens. C'était très. Les quatre ont été très bonnes dans leur style. Je suis pas d'accord sur Naomi. Je trouve qu'au contraire, elle a été plutôt. Elle s'en est plutôt bien sortie parce qu'elle avait quand même le sale créneau. Elle passait en quatrième et en plus, elle venait de se faire moitié enterrée de kayfabement parlant par Alexa Bliss, qui je trouve était très drôle aussi. C'était vraiment. C'était bien foutu. Je trouve qu'elle s'en est bien sortie et je suis d'accord. Enfin, j'ai le même prono que toi, à mon avis. Je pense qu'en effet, c'est une faute de transition pour Alexa Bliss, mais toujours est-il que je trouve qu'ils ont quand même fait du bon boulot avec elle pour mine de rien la mettre en challenger crédible parce que elle arrive à Elimination Chamber avec elle a le vent en poupe, hein, elle l'a bien rappelé, elle a deux victoires sur Alexa Bliss par tombée 2 semaines de suite. Là, elle lui a mis un putain de super kick, là, roundhouse kick dans la tête par-dessus la table. Moi, quand elle a lâché son kick, j'étais oh, comme ça, là, genre juste après la promo, je suis putain, là, genre ce qu'elle vient de lui coller. Donc, elle est finalement,
elle est
elle est à
légitime, ouais.
fond, elle est à fond, et on est dans une histoire où Alexa Bliss, elle est complètement perchée à la sous-estimer à balle. Et tu te dis que ouais, ça se tient, c'est bien foutu comme truc. Et tu te dis bah attends, fais gaffe parce que Naomi, elle est quand même là. Enfin bref, voilà. Moi, je trouvais que tout se tenait bien. Si j'avais un mauvais point à distribuer, ce serait peut-être moi. Personnellement, le ton de Hill de Mickie James, j'ai un peu du mal. Ses phrases un peu traînantes et son
Ouais, la
ton
diction, ouais.
très long, très articulé, très machin comme
C'est
ça, je
forcé, ouais.
suis la meilleure, alors machin. Bon, c'est un peu too much pour moi. Tu sens qu'elle veut se faire détester,
Oui, c'est ça.
Mais que bon, bah mine de rien, c'est Mickie James, elle arrive sur une petite musique comme ça où elle gambade et tout, donc c'est un peu compliqué quoi. Il y a une petite dissonance quand même.
Ouais.
Voilà, c'est mon seul mauvais point. Sinon, voilà, je trouvais ça très très cool et franchement, je suis plutôt hypé pour les deux matchs, donc c'est l'objectif est rempli.
Alors, messieurs, je vous ai parlé donc. On arrive au main event, pardon. Alors, avant, donc, le main event, on le connaît, hein, puisque le match a été déjà annoncé la semaine dernière. Hein,
Yes.
mais avant que le match ne débute, on a eu une petite séquence un peu plus tôt sur le Titantron avec un Luke Harper qui apparaît toujours dans la même mise en scène habituelle de la Wyatt Family. Sauf que là, Luke Harper est tout seul hein, suite aux derniers événements. Il parle. Luke Harper
Eh oui,
parle.
il parle.
Il nous fait un monologue. Il
Je me
explique que
souvenais
voilà
plus de sa
les.
voix.
Tout en faisant son CAP d'électricien.
Oui, on découvre un petit peu la voix
Il
de.
réparait des ampoules en tapant dedans, ouais.
Oui, bah écoute, hein, faut
J'ai
bien.
peur qu'il nous fasse une Claude François en direct, mais heureusement.
Alors, il explique effectivement, il dit voilà, les gens sont. Qu'on dit qu'effectivement, on est dangereux quand on a rien à perdre, mais que lui, bah, il n'a jamais rien eu. Donc, il a rien à perdre puisqu'il n'a jamais rien eu. Et donc il met en garde pardon Randy Orton hein, qui l'accuse de lui avoir volé sa famille d'être un menteur. Il dit qu'il va couper la tête de la vipère, enfin qu'il ne va pas se contenter justement de simplement couper la tête de la vipère, mais qu'il va l'éliminer à l'Elimination Chamber. Donc pardon, on nous book un match, on nous annonce donc un match entre les deux
Yes.
au pay-per-view. On enchaîne du coup avec le match tant attendu. Randy Orton qui ce soir affronte John Cena. Alors, ça fait pas. On a l'impression que ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas affrontés, mais c'était quand même affronté notamment pour la réunification lors de toute cette séquence de réunification du titre.
Ouais.
Je ne sais pas, les historiens sauront me dire ou pas si entre-temps ils se sont recroisés, leurs chemins se sont croisés ou
Si,
pas.
oui. Il y avait eu la dernière confrontation en date dont je me souviens. Alors là, je ne saurais plus trop la dater, mais c'est au Hell in a Cell de 2014 ou 2015 peut-être. Celui où ils s'affrontent, c'est Cena qui gagne. Et en même temps, le main event, c'était Rollins versus Ambrose, la fois où Bray Wyatt était apparu, vous savez, là en parlant en latin, là, avec le truc qui avait fait de la fumée, en cage. Vous vous souvenez de ce moment-là?
Pas du tout.
Ah ouais.
Mais...
Ah ouais, puissance, c'était. Attends, c'était quand ça? C'était loin.
C'était à l'époque où Brock Lesnar était un champion qui ne venait jamais, et donc on
Ouh là
bookait
là.
des pay-per-view sans match de championnat en
Ah
main
oui.
event, donc il y avait.
Une période un peu
Ouais.
sombre de notre
Ah mais donc
histoire.
c'était Hell in a Cell, mais il y a bien
Ben.
3 ans là. Hein. Non, 2 ans. Je sais
Et
plus.
ouais. Oh, toujours est-il que, voilà, old school, vintage, une affiche très vintage pour un main event. Donc, on a évidemment des gros chants, Les Go Cena, Cena Sucks. Toute cette ambiance old school hein, qui revient tout d'un coup. Cena qui bande les muscles, je me tromperai pas cette fois-ci, comme au Rumble, mais on le voit pas trop. Il y a un moment, voilà, il refait cette. Ce mouvement comme ça, un peu.
Ça fait, ouais.
Voilà. Bray Wyatt, évidemment, là pour accompagner Randy Orton. Hein, il est ringside sur son rocking chair. Alors, on est dans un match hein, étrangement classique où, comme je vous l'ai dit en préambule, entre deux anciens qui se connaissent, ou plutôt qui se connaissaient. Parce que finalement, chacun parvient à, assez facilement, on en parlait sur le chat juste avant, à porter un peu ses enchaînements sans rencontrer de très grandes difficultés. Il n'y a pas énormément de contres dans ce match. Il y en a évidemment quelques-uns, mais on aurait pu s'attendre à justement qu'il y en ait un peu plus, soit un peu plus compliqué pour l'un comme pour l'autre. Mais finalement, John Cena parvient à placer son enchaînement, hein, le proto-bombe, la Fine Knuckles, Double A... Pour le compte de deux, la vipère qui se relève, hein, faut pas non plus déconner. Randy Orton qui parvient à son tour à placer son RKO presque de nulle part pour le compte de deux également. C'est là où le match s'emballe puisque Cena parvient à bloquer Randy Orton dans son STF. La vipère qui abandonne tout de suite. Alors le mec, genre, il attend pas. Mais évidemment, il y avait une raison. La raison est qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'arbitre. L'arbitre a été assommé. Un rêve bump. Bray Wyatt en profite alors pour venir resser le champion hein, avant que Luke Harper, le réparateur d'ampoules, ne débarque pour défier son ancien maître. Il semble toujours tourmenté, hein, Luke Harper, à ce moment-là. On le sent hésitant. La foule est en délire. Elle acclame, elle encourage Luke Harper à se rebeller physiquement face à son ancien maître. Alors que Bray Wyatt pense avoir toujours le dessus psychologiquement sur Luke Harper, Harper décroche et décapite son ancien maître d'une énorme clothesline sous les vivas de la foule. Orton tente alors le RKO sur Luke Harper, mais John Cena revient à son tour, place son deuxième attitude adjustment. 1, 2, 3, c'est plié. Victoire du champion, John Cena wins. Pas de lol, c'est juste John Cena wins. Et c'est ainsi donc que se termine cet épisode de SmackDown. Giscal, qu'as-tu pensé de cette petite affiche, ce petit match à l'ancienne, loin de toute la nouvelle génération mise en avant ces derniers mois à SmackDown?
Oui, c'est vrai que c'était un match à l'ancienne, comme vous dites. Je pense que le dernier en contre un, on l'a dit, hein, ça datait un petit peu. Et ça me fait plaisir que tu mentionnes ça, parce qu'en effet, on en parlait hier soir. J'avais la même analyse sur ce match. J'avais été un peu choqué pendant le match, en fait, de voir que finalement un affrontement qui est quand même une des feux de Enfin voilà, c'est une des feux de incontournables de ces 10 dernières années, c'est Randy Orton contre John Cena. Ils se sont affrontés un nombre de fois.
Oui, d'ailleurs, un petit package vidéo juste avant le match, pour le rappeler.
Voilà, on le sait, ils ont commencé à quelques mois d'intervalle tous les deux. Ils se sont affrontés des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Ils sont tous les deux multiples champions du monde dans des matchs qui les ont impliqués à toi, à moi. Donc bref, ils se connaissent par cœur. Et je suis d'accord que sur ce match, on avait l'impression un peu bizarre que c'était presque la première fois qu'ils catchaient l'un contre l'autre, puisqu'il y avait un round d'observation très faible, très peu de contres, ces fameux enchaînements qui sont habituellement réservés soit dans les house shows, soit contre des jobbers un peu en milieu d'émission. L'enchaînement où John Cena place du premier coup on esquive la corde à linge, proto-bombe, five knuckle shuffle, attitude adjustment, pour le tomber, ça c'est un truc, genre, à moins d'être le perdreau de l'année, tu te prends jamais ça du premier coup quasiment maintenant.
Oui,
on
s'en étonnait d'ailleurs qu'il avait fait face au baron.
Face au baron, exactement, c'était pour ça que c'était assez surprenant comme finish.
On est face à Orton.
Ouais, là on est quand même face à Orton, ils ont une histoire quoi. Et pareil, Orton qui commence à entendre les voix dans sa tête et qui se jette au sol, qui tape par terre et qui prépare son archéo. Pareil, genre, jamais ça passe. Normalement, ça, c'était il y a 5-6 ans quand il affrontait des mecs en milieu d'émission à Raw. Ça, c'était très surprenant. J'ai trouvé le booking de ce match. Alors voilà, je sais pas si c'était voulu, c'était plutôt bien vu. Je suis pas sûr que ce soit vraiment, je suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'à ce point-là parce que c'est vrai que tu peux te dire, bah oui, Orton, ça fait tellement longtemps qu'ils se sont pas affrontés et puis ils ont quand même bien changé entre-temps. Je
Bah
pense pas.
surtout là.
Ouais, surtout l'un. Je pense que c'était surtout du booking un peu paresseux. Je pense que c'était un match. Je pense que, enfin, moi, j'ai vécu le match plutôt comme un match un peu paresseux. Je trouvais qu'ils se sont quand même pas trop donnés. C'était pas exceptionnel. Ils sont capables de bien mieux. Le match n'avait d'intérêt finalement que la séquence finale. C'est un peu le grief que j'ai un petit peu pour pas mal de matchs qui impliquent Bray Wyatt, Randy Orton, Luke Harper depuis plusieurs semaines. C'est que généralement, les matchs sont assez oubliables et n'ont de vocation que de pousser l'angle un peu final de Cliffhanger pour la suite. Bon bah voilà, donc cette fois c'était enfin la rébellion physique de Luke Harper, à souligner comme tu as dit la Discus Clothesline de Luke Harper qui était ultra violente, hein, qui a décapité Bray Wyatt. Bon bref, la rupture est consommée, donc maintenant on va enfin pouvoir passer à l'affrontement Orton Harper qui peut être très très intéressant à l'Elimination Chamber. Donc dans l'ensemble, on arrive au but voulu. Un peu déçu par ce match très bizarre, mais voilà.
Et toi, Rafa, alors qu'est-ce que tu en as pensé de ce vintage main event?
Oh, je trouve que pour une fois, Giscali va fort dans la déception quand même. C'était pas mal, mais c'est vrai que c'était étrange comme choix. Une très grosse affiche, mine de rien. Si, même si on oublie les deux, le champion actuel contre le vainqueur du Royal Rumble, tu te dis c'est le truc, bah on attend.
C'est
Bah,
l'affiche
c'était
de
le match.
WrestleMania normalement.
Voilà, c'est pas
Ouais,
le. Et
il y a
pour moi,
ça
enfin.
aussi.
Moi, je l'ai perçu comme ça. Si on nous la mettait comme ce soir-là, c'est que ça sera pas ça à WrestleMania.
Ouais, ça c'est plutôt bien vu effectivement. Il y a très peu de chance.
Je continue sur ce pronostic. Après le match, oui, effectivement, je pense que bah il y a de grosses échéances à venir. Ils étaient pas là pour se mettre en danger ou pour faire quelque chose de très spectaculaire. Donc c'était très classique. Bon, j'avoue, oui, ça m'a un peu surpris les enchaînements, le Five Knuckle Shuffle, le AA, pardon. Et tout ça, mais bon, c'était pas déplaisant. Après, c'est vrai qu'on est dans une période où on ne voit que WrestleMania en fait, et bah il s'est passé la même chose qu'à Raw, c'est-à-dire que c'est un ancien de la Wyatt, enfin c'est un ancien de la Wyatt Family qui est venu un peu parasiter le main event, et on n'a pas des matchs qui se finissent trop clean. Bon, je passe sur le Rev Bump parce que vous savez que j'aime pas trop ça et que je trouve ça un peu
Non.
couillon, et que c'était
Arrêtez de
dispensable à
toucher à
mon
nos
avis.
arbitres.
Oui, et puis en plus, enfin, je trouve ça complètement con que le mec, il sorte de 3 minutes de chaos et il fait un tombé comme si, voilà, comme si à son
Ouais, il
avis,
se pose
tout
pas la
ce...
question.
Mais il se pose pas la
Non, c'est
question.
ça, il se pose pas la question. Les mecs, ils savent qu'une fois qu'ils reprennent leurs esprits, c'est à ce moment-là qu'il faut probablement faire un tombé. Donc les
Ouais, c'est
mecs.
souvent ce qui se passe.
Non mais oui, d'ailleurs le Rev Bump, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il était un peu pourri, j'ai trouvé ce Rev Bump,
Écoute,
c'était
je
un
m'en souviens
peu...
même pas, moi, c'est pour te dire.
Bah c'est... Orton est sur les épaules de Cena pour un attitude adjustment, mais il s'accroche aux cordes et du coup, Cena en essayant de le faire lâcher les cordes, part
Même
en
ça, c'est
arrière
vintage.
et bouscule
Ouais.
l'arbitre. Et en fait, le truc c'est que moi là où j'ai trouvé... Voilà, bon, là on pinaille, hein, mais j'ai trouvé pas ça super bien exécuté parce qu'en fait, à aucun moment Orton peut vraiment voir que l'arbitre est KO. En fait, il est immédiatement pris dans le STF derrière et je trouve
Ouais.
qu'il tape beaucoup trop vite en
Bah
fait,
oui.
puisque
J'ai pas
d'habitude
compris.
j'aime bien dans certains matchs, tu vois pas mal, genre Charlotte l'a fait beaucoup, Alexa Bliss l'a fait beaucoup, le fait de taper en weekly parce qu'il n'y a pas d'enjeu, on
Exactement.
peut se préserver et tout,
C'est un
c'est
truc de
bien.
fille.
Ouais, c'est un truc de fille. Mais
Ouais.
là en fait, c'était un peu bizarre parce que je trouvais que Orton, tel que le bump était fait, Orton pouvait pas vraiment voir qu'il y avait plus d'arbitre. Et du coup, enfin vraiment, il tape comme s'il avait trop mal tout de suite. Et je trouve ça un peu dommage.
Ouais.
Voilà, je trouve pas ça extraordinaire non plus comme spot.
Moi, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. En général, le mec qui a gagné le Rumble, le pay-per-view d'après, il perd pas. Enfin, dans mon souvenir récent, en tout cas, les mecs gagnaient. Mais j'espère que Luke Harper va quand même pouvoir briller un peu contre Orton, qui lui sert pas juste de
Ouais,
paillasson.
ça va être un match intéressant, je pense. Ouais. On va pouvoir vraiment voir le premier match de Harper full face, quoi, quasiment, hein, parce que là,
Ouais.
il va être complètement libéré, quoi.
Ouais.
Messieurs, eh ben, c'est ainsi qu'on arrive à donc on arrive pardon à la fin de cet épisode. Donc bah, c'est l'heure justement du mot de la fin. Hein. Votre top, votre flop et votre note, Giscale, s'il te plaît.
Alors, ma note. Eh bien, ma note, je vais donner un peu en dessous de 4 cette semaine. Je donnais 3,75. 3,75. On reste pas loin du vintage 4, mais un petit peu trop de petites conneries dont on n'a pas grand-chose à faire à droite à gauche, bah, notamment les trois segments que tu as regroupés en un, qui mine de rien quand même prennent facile la moitié de l'émission. On reste, par contre, SmackDown, voilà, reste quand même ultra solide sur les fondamentaux, hein, le main event, les filles, surtout beaucoup les filles, qui étaient vraiment encore une fois bien mises en valeur cette semaine. Donc bon, ça reste encore une fois très très facile à regarder et très très bien écrit. Donc j'ai pas trop de soucis, je mets une bonne note. Mon top, tu vois, je vais le donner à ce segment que j'ai vraiment trouvé au poil, le dual contract signing des filles, et notamment voilà pour la prestation des quatre chacun dans leur style. Il y avait des bonnes punchlines, une bonne intensité, une bonne construction pour les matchs. Donc voilà, ce sera mon top de la semaine. Et mon flop, à qui je vais le donner? J'ai pas trop.
À tous ces prétendants.
Ouais, mais bon, après, c'est un peu tiré sur les ambulances, là, les flops un peu classiques. Je vais le filer quand même, bah, tu vois, au match, au main event. Voilà. J'ai dit que j'étais un peu déçu, finalement.
Ouh.
Le
Un
flop,
flop
le
qui
flop.
avec du John
Oh
Cena
là
dedans?
là.
Ouais, le
Comment
flop,
John Cena
c'est.
va-t-il réagir?
Le flop, c'est une
Il va te
déception,
bloquer sur Twitter.
finalement, par rapport à des attentes. Et bon, bah voilà, là, moi, Randy Orton, John Cena, je suis chaud. Je trouve ça un peu décevant. Donc, finalement, quitte à. On l'a dit, hein, c'est quand même une putain d'affiche. Moi, je trouve que limite, faut mieux presque pas les booker, ces matchs-là, si c'est pour faire ça, parce que c'est quand même des matchs où. En fait, techniquement, ce genre d'affiche ne devrait même plus avoir lieu à la télé, en fait, tellement c'est gros, presque, je trouve.
Oui.
Alors, à la radio.
Non, mais à la télé, oui, enfin, la télé
La radio.
gratuite, hein, enfin, genre, pas en pay-per-view, quoi. Donc, en fait, si c'est pour faire ce genre de match très très moyen, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà.
Raphaël, alors, ton mot
Et oui,
de la fin, s'il te plaît.
on va pouvoir titrer ce podcast. Le flop de Giscal va vous étonner. Mais moi, mon mot de la fin, alors mon flop, bon, moi je tire sur l'ambulance, hein, je mets au segment d'interview croisée de Nikki et
C'était
Natalia,
vraiment nul à chier, ça.
qui était complètement nul, et de manière générale, je trouve cette feud nulle, et je sais même plus si. Oui, leur affrontement est prévu là pour
Oui, oui,
Elimination Chamber.
oui, oui. Ça
Je sais
devrait être
même
le
pas
dernier.
si. Voilà, je sais même pas si je vais le regarder, je sais même pas qui peut gagner, à qui ça va servir, enfin, je m'en fous totalement. Nikki est très mauvaise en face, je le redis, et Natalia, dans ses remarques forcées, et pour finir par nous dire John Cena, ben, si j'étais pas marié, il coucherait avec moi.
Non, c'est quand même incroyable de dire des trucs comme ça.
J'espère vraiment qu'elle a un gros chèque derrière ou qu'elle a beaucoup d'humour sur elle-même.
Ouais.
Mon top, pareil, je joue la facilité, c'est l'opener avec ce match à 4 qui était vraiment très très bon. AJ Styles, ça continue à être de l'or. Corbin s'en sort bien, tout le monde s'en sort très bien, donc nickel. Et du coup, bah, je vais mettre la même note que Giscard, 3,75, parce qu'il y a eu des petits passages pas terribles, mais des petits passages très bien aussi.
Eh bien, me concernant, donc mon top, c'est la victoire du Baron. Mon flop, eh ben, ça va être la division tag team, qui a un petit peu de mal à se démarquer, hein. Et ma note pour sanctionner tout ça, 3,5. Très bien. Eh ben, messieurs, merci à vous pour votre participation. Merci Giscal pour tous tes fun facts.
On a bien rigolé.
On a,
Bah,
ouais,
très bien, tant mieux. Et
incroyable, toujours bon.
si on avait poussé jusqu'à Talking Smack, on avait quand même eu cette semaine.
Ah bah
On
vas-y.
aurait pu le mettre dans nos flops, hein, mais sachez que maintenant le nouveau surnom de James Ellsworth attribué lors de Talking Smack, c'est The Big Hog, parce que en fait manifestement la rumeur court dans les vestiaires qu'il serait manifestement extrêmement bien,
Équipé.
favorisé par la nature,
Ah
voilà,
oui.
et c'est pour ça que Carmella reste avec lui. Donc on est en train de
Oula.
virer sur quelques storylines un peu chelous à SmackDown sur les filles.
Ah oui,
Bon voilà,
d'accord. Ah oui, donc
ça aurait pu partir dans les flops aussi si on avait poussé jusqu'à Talking Smack. Mais voilà.
Ah
Ah
ouais,
oui,
donc
c'est.
ils sont loin les Talking Smack du début de l'émission quand même.
Ouais, il y a à boire et à manger en ce moment-là. Il hein. y a, y
Ah,
a de tout.
tu nous annonces du lourd là, oui.
Aïe, 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 aïe.
Ouais, James the Big
Ouais,
Hog.
et ben merci à toi Raphaël pour ta venue, hein.
Mais ce fut un plaisir, j'ai appris plein de choses.
Oui, bah, nous aussi, sur ce travail d'investigation dont on parlait déjà la semaine dernière avec Giscal, je crois qu'il faut trouver son gimmick maintenant.
On travaille, on fait ce qu'on peut au
Mister
supplément.
Fact. Mister
Ouais.
Fact.
Voilà. Et ben, ah ben oui, puisque celui qui faisait Face the Facts, on le voit plus trop là, ces temps-ci.
Non, non, sans
C'était
mieux
qui?
dire.
Face the Fact.
Bah,
Ah,
Kurt Hawkins.
oh
Kurt
putain.
Hawkins.
Ouais. Il y a pas de place pour tout le monde, hein, malheureusement.
Ah, non.
Heureusement parfois.
Ouais.
Oui, heureusement, effectivement.
Bon, bonne Elimination Chamber à tout le monde, tout de même.
Bah
Oui,
oui.
bah voilà, donc voilà. C'était tout pour donc ce Go Home Show. Donc Elimination Chamber, donc ce dimanche sur le network. Donc avec un numéro hein, évidemment spécial de catch-up qui sera disponible la semaine prochaine. Je vous invite également à l'écouter donc le catch-up pro si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà. Donc vous pouvez nous suivre en vous abonnant donc sur iTunes ou PodCloud pour l'audio. Si vous voulez voir nos gueules, c'est sur YouTube que ça se passe. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook, également au compte Twitter qu'on vient de lancer. Voilà, on essaie de balancer aussi quelques conneries entre deux annonces de publication d'épisodes.
Entre deux conneries.
Voilà, partagez, commentez, hein, quels sont vos tops, vos flops et votre note là, pour ce Go Home Show de SmackDown. N'hésitez pas dans la section commentaires de la chaîne YouTube ou même sur Twitter, pourquoi pas, si vous préférez le petit, les ga de gazouillis, les gazouillis, pardon, de l'oiseau bleu. Voilà. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, si ce n'est pour le numéro de spécial Elimination Chamber,
Yes.
pardon, et au
Ouais.
moins du supplément SmackDown. Merci à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. Salut!
Ciao.
Ciao.
Alors, messieurs,
Chaque
messieurs,
année.
messieurs, 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 pardon, pardon,
Oui.
j'ai eu une coupure en régie là. Alors,
Ah,
attendez.
faut que je recommence alors.
Oui.
Oh.